Après avoir donc accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, j'étais devenu une nouvelle créature. La passion de l'alcool était disparue et encore aujourd'hui, je ne bois rien du tout. La marche avec Dieu par le sacrifice de la croix devenait pour moi une joie merveilleuse et je ne regrette absolument rien depuis plus de 50 ans que je marche avec le Seigneur. Rappelez-vous que j'ai dit dans la première partie de mon témoignage que dès mon enfance, j'aurais voulu devenir un prêtre. Et chose curieuse, quand j'ai commencé à lire la Bible, à comprendre ce que Dieu avait fait pour chacun de nous, je sentais en moi le désir de commencer comme auparavant, dans ma religion, servir Dieu. Et je témoignais partout autour de moi, à mes amis, à ma famille. Par la grâce de Dieu, ma famille a suivi. Plusieurs membres de ma famille se sont donnés au Seigneur et ils sont maintenant tous là-haut avec le Seigneur Jésus. Je reste encore, moi, pour témoigner parce que je veux encore témoigner partout pour lui. J'ai amené beaucoup de personnes au Seigneur, même avant d'entrer dans le ministère. J'ai amené ceux qui vivaient dans le péché avec moi auparavant, même des prostituées que j'ai amenées à l'Évangile et qui sont venues des véritables colonnes dans la maison du Seigneur. Mais je sentais au-dedans de moi-même que le Seigneur voulait plus que cela de moi. Il voulait que je le suive dans le ministère. Et je comprenais très bien ce que Dieu voulait, mais j'avais toujours une objection qui me revenait de mon enfance. Je n'avais pas d'instruction. Et puis, je ne savais pas beaucoup parler, je bégayais. J'étais très timide et je n'aimais pas beaucoup parler devant les gens, qu'avec ceux que je connaissais. Mais le Seigneur voulait absolument cela. Et il me l'a fait comprendre à plusieurs reprises, par les visions des âmes perdues, par des appels précis, mais je dis toujours, « Seigneur, je ne peux pas, je ne suis pas instruit, je ne sais pas parler, je ne connaissais pas beaucoup le français et je refusais constamment. Mais Dieu voulait absolument que je le fasse. Il m'appelait, mais je résistais toujours. Or, je dois vous dire maintenant qu'en 1948, j'ai dû passer par une terrible épreuve. À l'âge de 17 ans, j'étais tombé d'un toit de 5 mètres de hauteur sur Mont-Séant. Et je m'étais cassé quelque chose dans la colonne vertébrale, mais personne ne le savait, personne n'a jamais rien trouvé, ni les radioscopies, ni tout ce qu'on pouvait faire, ne pouvait dire que j'avais quelque chose dans la colonne vertébrale. Et à l'âge de 34 ans, je commençais à souffrir beaucoup. Et petit à petit, je devins paralysé. Mes jambes ne fonctionnaient plus et je devais rester à la maison, abandonner tout. Même mes enfants étaient mis de côté. Je ne pouvais plus suffire à quoi que ce soit. Et malgré tous les soins, on ne trouvait absolument aucun moyen de me guérir. Voici ce que j'avais dans la colonne vertébrale, qui me fut révélé par un médecin qui vint me voir un jour, un médecin que je ne connaissais pas, il était en remplacement. J'avais attrapé une bonne grippe, il vint me voir et en me voyant paralysé, il me dit « Comment, tu es paralysé toi ?» J'ai dit « Oui, depuis quand ?» Je dis « Ça fait presque 3 ans que je suis là comme ça, de plus en plus fort. » Mais il était « Je sais ce que tu as, je viendrai te chercher demain, je te conduirai à l'hôpital » et le professeur Christophe verra ce que tu as. Le professeur Christophe était le professeur attitré de la Cour royale de Belgique. Et il venait de rentrer d'Amérique, où il avait été apprendre à opérer ce qu'on appelle la hernie discale. Mais cette hernie, qui durait donc depuis 17 ans, avait presque sectionné le nerf sciatique de la jambe droite, et la jambe gauche était fortement atteint aussi. Mais en plus de cela, le docteur savait qu'il y avait autre chose que une simple coupure des nerfs sciatiques. Il y avait un cancer, comme on dit, encapsulé dans la colonne vertébrale. Je fus donc obligé de me faire opérer, la sécurité sociale l'oblige, autrement je n'aurais plus rien touché, et la mort serait venue en très peu de temps, lorsque la poche se serait déchirée, c'était la mort foudroyante. Je fus donc opéré par le professeur Christophe, et quand après quelques jours, vraiment dans le coma, je crois que c'est 5 jours dans le coma, le professeur va me voir et il me dit « Écoute mon ami, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour te sauver la vie, mais tu es dorénavant condamné à la chaise à roulettes. » Je vous assure, chers amis, que quand on entend de telles paroles, ça vous travaille l'esprit, vous êtes foudroyé sur votre lit. Condamné à la chaise à roulettes à l'âge de 34 ans, et les enfants derrière moi. Je restais sur mon lit à peu près 90 jours. Sans bouger, mes bras ne bougeaient pas, j'étais très 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 faible, je ne parlais presque pas, et je ne pouvais faire aucun mouvement. Il y avait tout le temps une infirmière à côté de moi, que je connaissais très très bien, et qui me nourrissait à la cuillère ou à la pipette, donc comme on dit, pour boire. Et c'est le 90e jour qu'on me demanda la permission de mettre dans ma chambre un homme qui était paralysé comme moi, des deux jambes seulement. Et j'ai dit oui, ça ne me faisait rien, ça ne me gênait pas. Et à un moment donné, mon infirmière, profitant qu'il y avait quelqu'un là devant moi, s'il y avait besoin de quelque chose, il était là pour m'aider. Or, l'infirmière dit, écoute, je dois m'absenter un moment, et elle dit à cet homme, si monsieur Delville a besoin de quelque chose, sonnez-moi, il vous fera signe avec ses yeux, sonnez-moi, je reviens tout de suite. Or, cet homme a profité que l'infirmière était sortie, pour se pencher dans sa table de nuit, a pris ses gros souliers de paysan, a pris les lanières de cuir, les lacets de cuir, et puis les a attachés à son cou et à la tête de son lit, et il s'est laissé tomber dehors de son lit. Et il est mort là, devant moi, sans que je puisse absolument rien faire pour lui. Et quand l'infirmière revint, elle le trouvait déjà mort. Chers amis, si un tel fait se passait devant vous, quelle serait votre réaction? Oh, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, mais dans le silence de mon cœur, j'ai parlé avec Dieu. Et je lui ai rappelé quelque chose qui s'était passé avec moi, un jour que je vais vous dire. J'avais un désir profond d'être un peu avec les membres de l'Église, avec mes frères et mes sœurs dans l'Église, assister à un culte. Et je demandais à mes enfants de me conduire, et on m'a conduit donc à la salle évangélique, à un culte. J'étais assis au dernier banc dans la salle, et là, personne ne savait rien. J'ai pleuré devant Dieu. J'avais mes mains devant mes yeux et je pleurais. Personne ne le savait. Or, nous savons, nous, dans les dons spirituels, que Dieu parle. Et tout à coup, le serviteur de Dieu, qui était au premier banc, a dit ces paroles. Je te vois, je te connais, et je vois les larmes qui coulent de tes yeux. Je sais la peine qui est dans ton cœur. Et tu me demandes pour quelle raison tu es malade. Tu me demandes ta guérison. Sache maintenant que pour l'instant, ma grâce te suffit. Mais plus tard, tu comprendras. Or, ce passage-là m'est revenu à l'esprit pendant que j'étais dans mon lit. Et j'ai demandé, Seigneur, pour quelle raison donc suis-je comme cela? C'était en moi-même que je parlais. Seigneur, si la grâce m'a suffi jusqu'à présent, je te demande pour quelle raison je suis là comme cela. Alors, à mon oreille, d'une façon audible, j'entendis la voix du Seigneur qui me disait ces mots. Tu me rappelles ce que je t'ai dit. Eh bien maintenant, je te dis ceci. La foi sans les œuvres est morte. Je ne comprenais pas, je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Et du fond de moi-même, j'ai dit, Seigneur, mais je ne comprends pas. Faire des œuvres, ce n'est pas possible. Et une deuxième fois, la voix du Seigneur à mon oreille répéta ces paroles. Je te le répète, la foi sans les œuvres est morte. J'ai eu au-dedans de moi comme un moment de révolte. Et j'ai dit, toujours au-dedans de moi-même, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse des œuvres, moi? Je ne sais pas parler. Je ne sais rien faire. Je ne sais rien donner à quiconque, car faire des œuvres, c'est donner quelque chose à quelqu'un. Mais Seigneur, je ne peux pas. Je suis paralysé. Alors, une troisième fois, la même voix me dit, écoute maintenant et comprends. La foi sans l'action est une foi morte. La lumière se fit immédiatement dans mon esprit. J'avais compris ce que le Seigneur voulait. Et aussitôt, tout bas, bien entendu, si je le disais tout bas maintenant, vous n'entendriez pas, mais tout bas, j'ai dit à l'infirmière, José, donne-moi mon pyjama. Et la jeune fille se leva et dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je veux me lever. Alors non, reste bien tranquille, reste, tu es bien, tu ne peux pas bouger. J'ai dit, José, donne-moi mon pyjama. Je veux me lever. Et ma voix s'élevait. La jeune fille dit, non, non, reste tranquille, et elle se rassit. Au moment même, une troisième fois, je dis, José, donne-moi mon pyjama, mais d'une voix plus forte. Et en même temps, ma main droite, qui ne bougeait plus, a été mis sur son épaule et j'ai serré son épaule et l'a tiré vers moi. Tellement effrayée de voir cela, saisie, elle a vite sonné une autre infirmière qui est accourue. Elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le 73 veut se lever. Vous savez, nous sommes des numéros. Hein? Dans les hôpitaux, c'est comme cela. L'infirmière est partie pour aller appeler le professeur Maréchal. Mais j'ai dit à José, José, mets-moi mon pyjama. Où je me laisse tomber comme cela hors du lit. J'étais nu dans une coquille. Or, elle m'a passé le pantalon pyjama, puis j'ai dit, José, mets mes jambes hors du lit. Elle a mis mes jambes hors du lit. Elles sont tombées par terre. Je tremblais de tous mes membres. Depuis si longtemps que je ne marchais plus. Et vous savez, quand on a déjà une grippe de quelques jours, comment les jambes tremblent quand on se lève la première fois. Mais je voulais marcher, je voulais exécuter ce que le Seigneur m'avait dit. Et à ce moment-là, je poussais ma jambe en avant, ma jambe gauche en avant, le plus que je pouvais, et puis j'appuyais mes deux mains sur le bord du lit, et j'ai dit ceci, au nom de Jésus, je marcherai, poussant un bon coup avec mes mains sur le lit, je me lançais en avant, et j'arrivais dans le vestibule. Au moment même où le professeur Maréchal arrivait. Et quand il me vit marcher dans le vestibule, il s'écria, c'est un miracle, le 73 qui marche. Tout l'hôpital a entendu cette voix, le 73 qui marche. C'est parti dans toutes les chambres. J'étais connu partout parce que j'avais souvent visité l'hôpital auparavant. C'est parti dans les cuisines. Des cuisines, c'est parti dans les bureaux. Du bureau, c'est parti dans les bureaux de l'usine, car l'hôpital était l'hôpital de mon usine. Des bureaux de mon usine, c'est parti dans mon atelier. C'est parti même retrouver mon parrain à 800 mètres de profondeur. Partout, on savait que le 73, le charpentier donc de l'usine, remarchait. Ce fut un coup d'éclat partout. Même la Croix-Rouge de Belgique l'a su, car ma tante était la présidente de la Croix-Rouge de Belgique. Partout, on savait qu'un miracle s'était passé. Le miracle, quel miracle ! Que le Dieu que je connaissais était toujours un Dieu vivant, qu'il était celui qui tenait ses promesses. Il avait dit un jour tu comprendras. Et ce jour-là, j'avais compris, le miracle s'est accompli. En ce moment-là, je marchais, je rentrais chez moi et je jouais au football à maison, avec mes enfants qu'on avait ramenés à la maison, qui étaient dans un orphelinat en attendant. On les avait ramenés à la maison et ils m'ont demandé de jouer au football avec eux. Et c'était une joie pour eux de voir leur papa, qui avait été resté si longtemps sans marcher, qui jouait au football avec eux. Le miracle, le jour des miracles n'est pas encore passé. Il est toujours le même. Si vous êtes malade, incurable, croyez donc que Dieu est toujours vivant. Je savais que Dieu me guérirait et ma confiance en lui, Dieu a répondu. C'était vrai, Dieu m'avait guéri. Mais pourquoi donc? Pour quelle raison avait-il permis que je passe par ce pas-là? Quand je me présentais quelque temps après pour retravailler, les médecins de l'usine ont refusé de me reprendre. Ils m'ont dit, avec ce que vous avez eu, vous ne pouvez plus travailler, vous aurez votre pension d'invalide. Alors, Dieu m'a dit ces paroles. Puisque maintenant tu ne travailleras plus pour les hommes, tu travailleras pour moi. L'appel était formel, je ne devais plus refuser, et j'ai compris maintenant que je devais travailler pour le Seigneur. Et c'est pourquoi depuis 1948, je suis dans le ministère, et ainsi jour après jour, je témoigne pour lui, j'annonce la parole de Dieu partout où je peux, n'importe où, partout où le Seigneur m'envoie, j'annonce la parole que Dieu est un Dieu vivant, qu'il est celui qui sauve, mais celui qui guérit également. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez besoin dans votre corps, et qu'ainsi le nom de Jésus soit glorifié par vous comme je l'ai glorifié en moi.